11h sur Radio Campus Tour. Bonjour chers auditeurs, c'est Mélissa et vous écoutez Parasol et Bord de Loire. Alors la rentrée s'avance masquée, le port du masque est obligatoire dans l'enceinte de l'université de Tours, mais qu'en est-il pour les autres établissements d'enseignement de l'agglomération ? Je me suis rendue à l'école Simone Veil, école primaire et maternelle qui est au quartier des Deux Lions, juste à côté de notre belle radio, et j'ai pu y rencontrer Sylvain Benahim, représentant de la mairie de Tours, Sabrina Jacquet, chef d'établissement, et Charles Gatineau, agent de jour. Il nous parle de la rentrée dans cette école du quartier des Deux Lions.
Benahim, responsable du pôle école à la ville de Tours, donc tout ce qui concerne le personnel et le patrimoine scolaire.
Alors pour qu'on comprenne bien, pour que nos auditeurs comprennent bien, est-ce que vous voulez rappeler comment fonctionnent les écoles ? C'est-à-dire pourquoi c'est lié à la mairie de Tours ?
Alors la mairie a en charge l'entretien et le suivi des bâtiments scolaires dans le premier degré. Donc les écoles élémentaires, maternelles et les primaires.
Voilà. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte l'éducation nationale est locataire des écoles ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ?
On pourrait dire ça comme ça, effectivement. Nous, on fournit toute la logistique pour que les écoles puissent fonctionner. Et on n'a pas en charge le personnel enseignant, qui lui dépend effectivement de l'éducation nationale. On a en charge le personnel d'entretien et de restauration.
Et alors, pour se faire une idée, sur une ville comme Tours, il y a combien d'écoles ? Ça représente quel volume, disons, de bâtiments et de personnel ?
Alors, à Tours, il y a 58 écoles. Ça représente presque 70 bâtiments, puisque certaines écoles sont composées de plusieurs bâtiments. Et au niveau du personnel, il y a à peu près 400 agents, un peu plus de 400 agents qui travaillent dans les écoles.
Est-ce que vous voulez détailler un peu quelles fonctions occupent ces agents ?
Alors, ce sont principalement des ATSEM, donc des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, donc qui accompagnent les enseignants en école maternelle pour l'aspect matériel, aide pédagogique, etc. Et des agents d'entretien et de restauration qui assurent l'entretien des écoles et le service de cantine le midi.
Voilà, donc là on est quand même dans une période particulière, hein. On est post-confinement, on est toujours dans la période d'attention à la propagation de la Covid-19. Comment vous avez préparé la rentrée, en fait, au niveau de ce que vous occupez des bâtiments, de la logistique ? Donc comment est-ce que vous avez travaillé avec les équipes enseignantes ? Est-ce que vous avez fourni du matériel ? Est-ce que vous êtes auteur des protocoles ? Comment ça s'est passé ?
Alors, on avait déjà l'expérience d'avant l'été, puisqu'on a eu déjà des protocoles assez stricts à la reprise après le confinement, ce qui a permis aux agents de faire briquer les écoles, les désinfecter, les passer au virucide de très nombreuses fois. Et ceci a été fait aussi pendant l'été, ce qui a permis une rentrée un peu plus sereine le mardi dernier. Voilà. On a fourni aux agents tout l'équipement nécessaire, les masques, le gel hydroalcoolique, pour qu'elles puissent travailler en présence des enfants.
Alors vous avez fourni donc aux agents ATSEM, vous expliquez le personnel. Donc est-ce que ces personnes ont reçu une formation pour l'expliquer quels étaient les gestes à appliquer dans le cadre d'un protocole quelconque ? Comment ces personnes ont été informées ?
Elles ont été informées par différentes notes de service, notamment en matière d'entretien. Il y a tout un protocole de nettoyage et de désinfection qui est mis en place par la responsable diététicienne de la cuisine centrale, qui est en charge cette mission de qualité autour de l'entretien. Donc il y a des fiches qui sont mises en place, qui ont été diffusées dans toutes les écoles pour que les agents respectent le nettoyage des points de contact quotidiens, le lavage des sols, etc.
Est-ce que ça représente plus de travail pour ces personnels ? Parce qu'on imagine s'il y a plusieurs décontaminations par jour.
Effectivement, leur temps est compté, puisqu'elles n'ont plus trop de temps libre, on va dire, dans leur journée, puisque, par exemple, pour les ATSEM, si elles ne sont pas en aide pédagogique, elles sont en entretien. Donc elles ont toujours quelque chose à faire, que ce soit être avec l'enseignant ou être à leur tâche de nettoyer la classe, les communs, voilà.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a sûrement un surcroît d'activité. Alors, est-ce que
il y a un surcroît d'activité, oui.
Le personnel est suffisant ou est-ce que vous avez dû
On est à flux tendu.
Voilà. Alors, aussi une question, parce que ce protocole, donc c'est des masques, c'est des produits nettoyants particuliers, ça a un coût. Donc, est-ce que vous pouvez en dire quelque chose?
Alors, c'est un coût, notamment pour tout ce qui est séchage des mains, puisqu'on a mis en place le séchage des mains avec des essuie-mains à usage unique, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisqu'on utilisait des torchons qu'on changeait régulièrement, qu'on faisait nettoyer à la laverie chaque semaine. Donc ça, ça a eu un fort impact au niveau des coûts. Également l'achat de produits, puisqu'on a acheté fin mai du virucide, qu'on n'utilisait pas jusqu'à présent. Donc on a dû acheter ce genre de produits-là. Et puis ensuite, l'achat des masques, l'achat du gel hydroalcoolique, tout ça, c'était des surcoûts pour la ville, oui.
Vous avez une idée du budget que ça représente?
Non.
Non. Peut-être un mot sur la cantine?
Oui.
Alors, parce qu'il y a quand même certains élèves qui ont des restrictions alimentaires ou des régimes particuliers. Donc, en ces temps de Covid, comment est-ce que ces élèves-là...
Ça ne change rien. On a une procédure qui s'appelle les PAI. Des enfants qui amènent, par exemple, leur propre repas parce qu'ils ont des allergies particulières. Ça ne change pas.
Mais ça veut dire que même en situation de Covid, on peut continuer à amener des choses de l'extérieur.
Oui, oui, oui. Avec le protocole qui a été un peu allégé pour la rentrée, on peut toucher des objets, en rapporter de l'extérieur. Pour le protocole sanitaire, non, il a été quand même très allégé par rapport à juin, mais c'était nécessaire pour pouvoir accueillir l'ensemble des enfants, parce que en juin, on a accueilli le maximum d'enfants possible avec les préconisations qui étaient demandées.
Qu'est-ce qui a été supprimé, par exemple, allégé ?
Qu'est-ce qui a été allégé ? Le nombrassage des groupes, par exemple, qui a été allégé au niveau de la cantine, puisque ça a allongé considérablement, sinon, le temps de restauration. C'est un des exemples qui fait qu'on peut accueillir plus d'enfants.
Et les activités de pause méridienne, ça, c'est encore court ou là c'est plus possible en ce moment?
Après, il y a une organisation interne à chaque école où les enfants se retrouvent dans la cour ou pas, où ils sont par classe ou pas, en fonction des locaux, la dimension de la cour, si c'est possible ou pas. Voilà. Mais il y a toujours des surveillants de cantine, bien sûr.
Alors, je suis Sabrina Jacquet, je suis directrice de l'école primaire Simone Veil. La rentrée, c'est passé vraiment très bien puisque tous les enfants étaient vraiment contents de retrouver leur école. Je crois que ça c'était important. Il faisait beau, les parents ont joué le jeu de comprendre qu'on ne pouvait pas rentrer dans le bâtiment. Alors bien sûr, on a organisé les entrées un peu différemment. Les maternelles sont rentrées d'un côté. On a laissé la possibilité aux parents des petites sections de pouvoir rentrer quand même dans des conditions bien cadrées. Mais la rentrée s'est vraiment bien passée. Les enfants sont revenus jeudi et sont encore là aujourd'hui. Et je crois que tout le monde était content d'essayer de retrouver un peu un rythme scolaire normal, avec des journées complètes, avec tous les élèves, parce qu'on peut accueillir vraiment tout le monde pour cette rentrée.
Alors comment ça se passe pour circuler au sein de l'école? Est-ce qu'il y a des horaires particuliers? Comment vous mettez les choses en place?
Alors nous, sur l'école, on a décidé de couper les effectifs en deux, de pouvoir faire deux accueils sur deux entrées différentes, un côté maternel, un côté élémentaire, et puis de mettre 10 minutes vraiment d'écart entre les deux, simplement parce qu'on voulait vraiment limiter le stationnement des familles sur le parvis et qu'il y ait le moins de regroupement possible et que ça soit fluide. On avait essayé de décaler davantage, mais en fait entre les familles qui viennent chercher les frères et sœurs en maternelle, en élémentaire, finalement il y avait plus de monde sur le parvis, donc cette solution semble bien mise en place. On a une réunion de parents dès jeudi soir et les familles ont vraiment acquiescé en disant qu'on avait bien fait de faire ce changement là, que c'était encore mieux que l'année d'avant. Donc on peaufine nos stratégies et on est bien entouré avec les parents qui comprennent vraiment la situation. Tout le monde essaye de faire au mieux. Et puis comme on avait l'expérience de l'année dernière, forcément le protocole étant plus allégé, c'est quand même plus facile à mettre en place au niveau de l'établissement.
Et au niveau pédagogique, est-ce que cette idée de distanciation, j'imagine que c'est le cas en classe aussi, qu'il y a une distance à respecter, qu'on garde le masque, qu'est-ce que ça implique pour les enseignants, comment est-ce qu'ils adaptent leur pédagogie?
Alors, Le protocole, en fait, prévoit pas qu'on mesure comme on a pu le faire avant, mettre des scotchs partout. Donc ça, c'est quand même aussi, c'est moins stressant pour l'organisation, pour essayer de que ça soit aussi une classe où les enfants sont bien, enfin sont voilà, pas stressés de rentrer dans le cadre du camarade qui est à côté. Là, vraiment, ce qui compte, c'est qu'on essaye de détendre au mieux. On aère les classes. Ils peuvent partager du matériel commun, donc c'est aussi moins stressant que d'avoir chacun son matériel, ils peuvent quand même jouer ensemble. Donc, c'est ben voilà pour représentation. C'est un cours sur l'espace, la représentation de l'espace dans le bâtiment. Donc ben forcément, ça, les enfants déambulent, mais c'est qu'une classe. Voilà, nos couloirs, nous on a de la chance, sont très larges. Donc pour la circulation, éviter les brassages, c'est vraiment, on est facile. Enfin, sur cette école, c'est vraiment très facilitant.
Juste un mot peut-être pour nous expliquer en quoi ça consiste là cette activité.
Mais là, ils font du repérage parce qu'ils sont en questionner le monde. Enfin, c'est un domaine sur le repérage sur l'espace. Et ils vont faire des maquettes de l'école, se repérer des classes où sont situées leurs classes. On a une grande école en plus. Enfin voilà. Donc arriver à se situer dans l'espace, ça fait partie des voilà de ce qu'on travaille ici. Et autant le faire sur des choses concrètes en partant de notre école. Et puis après on va passer au plan. Donc là voilà, la maîtresse passait avec ses élèves pour essayer de faire repérer où sont voilà telle salle, là où on peut aller, dans quel sens on circule. Et puis ils peuvent le refaire en maquette et travailler comme ça, apprendre à se repérer sur un plan. Pour venir ici, vous avez peut-être eu besoin d'un plan d'ailleurs, et peut-être que l'école vous avez fait des maquettes pour mieux comprendre.
Et alors, je reviens sur le port du masque aussi, donc on rappelle qu'il est
obligatoire. C'est une règle absolue. Donc ça a été très clair. Même si on est à plus d'un mètre, même si on est en récréation, c'est le masque absolu tout le temps. Donc c'est vrai que ça c'est la contrainte de la rentrée. On attend qu'on puisse avoir peut-être un prochain allègement si la situation s'améliore. Mais pour l'instant, tout le monde joue le jeu. Tous les personnels portent le masque. C'est pas facile, mais je crois que tout le monde, vos auditeurs, portent le masque certainement, peut-être même en ce moment, et savent bien que c'est compliqué. Mais bon, voilà, si c'est l'effort à faire, on fait l'effort.
Est-ce que vous pensez que ça a ou que ça va avoir un impact sur les enfants peut-être aussi d'être face à un enseignant masqué, surtout quand c'est un nouvel enseignant ou une nouvelle enseignante, peut-être que c'est difficile.
C'est sûr, je me suis fait la remarque, surtout avec les petits, parce que de voir des adultes masqués qui arrivent dans une nouvelle école, c'est la première fois qu'ils viennent, les adultes sont masqués. Et finalement, ce matin, il y avait deux petits qui étaient un petit peu tristes, qui ne m'avaient jamais vue, que j'ai pris par la main pour les accompagner avec la maîtresse pour aider. En fait, ils s'adaptent très bien, hein, presque mieux que nous. Enfin, ça n'a pas l'air de leur poser problème. Mais après, bon, il faut voir, à tenir. Là, on va faire une petite présentation de l'équipe en photo. On va faire la version masquée et la version non masquée. On va essayer de faire des petites possibilités de jeu avec les élèves pour que voilà que ça les perturbe pas. Mais je crois qu'ils ont été tellement habitués pendant toute la période, peut-être à voir leur famille, voilà, voir les gens masqués, qu'ils s'adaptent quand même assez facilement. Non, mais essayer de comprendre, de toute façon, on avait forcément un travail à faire, nous, au niveau pédagogique, sur les gestes barrières. Donc, voilà, ils savent très bien le dire, qu'il faut porter le masque. Enfin, ils savent mieux les règles même que certains adultes. Hein. Ils nous disent, moi, mon papa, il éternue pas dans son coude. Ils savent très bien faire la remarque. Vous inquiétez pas que... Alors, vous pouvez compter sur eux si vous suivez pas les règles pour qu'ils vous les rappellent. Il n'y a aucun problème.
Est-ce que vous voulez nous faire un tour, peut-être, de l'établissement? Est-ce que vous voulez nous montrer des choses?
Si vous voulez. Alors, je vous suis. Eh bien, si vous voulez, nous allons aller à l'accueil des maternelles. Comme ça, vous pourrez voir comment on accueille les parents de petite section qu'on laisse entrer exceptionnellement dans le bâtiment. Allons-y. Alors, c'est tout en bout du coup. Voilà, Voilà, donc nous arrivons ici. Là, c'est l'entrée pour les maternelles. Les familles arrivent. Donc, ceux de moyenne section et de grande section restent à l'extérieur, communiquent avec les deux enseignantes qui restent à la porte. Et les parents de petite section, pour rassurer encore les petits à la rentrée, rentrent, doivent déjà passer par le gel hydraulique, à porter le masque, évidemment, obligatoirement, et rentrent dans cette salle où il y a les ATSEM avec les enfants. On a installé quelques jeux pour que ça soit plus convivial. Et puis, voilà. Ensuite, ils ressortent. Ils ne vont pas dans l'école ni dans le reste des bâtiments. Et c'est les maîtresses avec les ATSEM qui vont vers les sanitaires parce que le premier geste, c'est d'aller se laver les mains, évidemment. On tourne à l'entrée, vous êtes en... Donc voilà, ici nous arrivons, c'est l'entrée des élèves de l'élémentaire. Donc là, les enfants rentrent et vont directement tout seuls dans la cour de récréation. Et devinez quel est le premier geste, aller au sanitaire, se laver les mains. Ils savent très bien, il n'y a pas de problème, ils peuvent jouer. Et au moment de la sonnerie, ils savent qu'ils doivent aller se laver les mains. Et ensuite, ils vont se ranger, on monte en classe. Donc en fait, là, aucune famille ne rentre. Si vraiment on a parfois des élèves qui ont des soucis de santé ou qu'on doit accompagner, dans ce cas, de la même façon, gel hydroalcoolique à l'entrée, port du masque obligatoire et on peut faire rentrer voilà, quelques parents exceptionnellement pour des enfants peut-être diabétiques, enfin, des cas très particuliers. Voilà, donc le reste, les agents ont toujours le masque dans les couloirs, il y a un sens de circulation, donc par l'extérieur, les élèves montent à l'étage. Chaque classe sait dans quel sens doit monter, quelle classe monte d'abord, ensuite. Il n'y a pas de croisement. Et on évite ainsi au moins à minima les brassages entre les classes. Et puis, et tout se passe bien jusqu'à maintenant.
Merci.
Bonjour. Alors, je m'appelle Charles Gatineau. Je suis agent de jour de l'école Simone Veil. Donc, je suis en charge de l'entretien général de l'établissement, extérieur et intérieur. Donc je suis en charge aussi de veiller sur le bon port du masque, notamment au niveau du personnel, et les règles de sécurité, l'hygiène, pour voir si c'est bien respecté, tout simplement.
Est-ce que vous voulez nous donner à voir, par exemple, votre emploi du temps? Alors comment se passe votre journée en ce moment, en temps de Covid?
Alors la journée déjà commence par vérifier si le bâtiment est en bon état pour accueillir l'ensemble du personnel et les enfants et les familles. Voilà. Ensuite, nous accueillons les enfants dès 8h20 pour vérifier l'accueil en général hein. Voilà, donc nous postons à l'entrée de l'école et seuls les enfants peuvent rentrer dans l'établissement actuellement. Les parents sont obligés de rester en extérieur à cause du Covid, tout simplement.
Et donc ça veut dire que vous faites plusieurs fois par jour le tour de l'établissement pour nettoyer les sols, pour nettoyer peut-être les poignées de porte, des choses comme ça?
Oui, tout à fait. Donc tout ce qui est surface, tout doit être fait très régulièrement dans la journée. Les sols, c'est au minimum une fois par jour. Et les toilettes, plusieurs fois, enfin au maximum tous les jours. Hein, dès qu'il y a les passages des enfants, des adultes, ça doit être fait régulièrement.
Et alors je vois là, vous portez, vous, un masque à usage unique. Je vois que la directrice de l'établissement a un masque en tissu. Alors comment ça se passe pour pour ces masques? Est-ce qu'ils sont fournis à usage unique seulement pour les personnels de la mairie? Ou comment, si jamais un enseignant oublie un masque, comment on fait?
Alors on a la chance d'avoir une collectivité qui nous fournit des masques au quotidien. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, au minimum, on nous distribue des masques pour l'ensemble du personnel. L'éducation nationale également, hein, c'est pas que les agents territoriaux. Voilà, donc l'ensemble du personnel, tous les adultes, doivent avoir des masques. Hein, même les animateurs surveillants, les centres de loisirs qui sont gérés par les associations, c'est pareil. Ils sont fournis par les associations. Voilà.
Comment vous travaillez avec vos collègues ATSEM, alors?
Alors, nos collègues ATSEM ont les mêmes règles d'hygiène et sécurité. Hein. On travaille tous ensemble. Donc, évidemment, il y a une communication importante, hein, puisqu'il faut respecter les mêmes règles d'hygiène pour tous. Donc voilà. Après, les ATSEM, elles ont des règles un peu différentes. C'est-à-dire que, enfin, au niveau des élèves, en tout cas, la première, je pense que Madame Jacquet a dû en parler, la première journée d'accueil, en tout cas, les parents ont pu rentrer, notamment la première année de maternelle, parce que c'était plus compliqué, plus difficile. Et voilà. Sinon, au niveau des normes d'hygiène, je ne vais pas m'étaler, mais c'est la même chose qu'en élémentaire. Voilà.
Qu'est-ce que ça a le plus changé, ce Covid-19, dans votre façon de travailler ?
Le plus changé, déjà au niveau des normes d'hygiène, de toute manière, on a quand même des priorités. L'hygiène est quand même une énorme priorité dans les écoles. Ce qui a changé, c'est le port du masque, évidemment. Hein. C'est ce qui est le plus gênant pour l'ensemble du personnel. Après, également aussi pour les enfants, parce que je pense que c'est quand même pas naturel d'avoir des adultes masqués en permanence dans une école.
Comment on va sortir de tous ces protocoles, à votre avis ?
Eh ben, je pense que si tout le monde respecte le protocole sanitaire qui nous est imposé par l'État, je pense qu'on en sortira le plus rapidement possible. Il faut que tout le monde respecte ça pour qu'on s'en sorte le plus rapidement possible, tout simplement.
Isabelle Fernand.
Voilà, merci à Sylvain Benahim, responsable du pôle école à la mairie de Tours, et Sabrina Jacquet, directrice de l'école Simone Veil, et Charles Gatineau, agent de jour à l'école Simone Veil. C'est un reportage masqué, micro à bonne distance et sans les moyens techniques de Radio France. J'en appelle donc, chers auditeurs, à votre indulgence si le rendu sonore n'était pas parfait. Mes pas m'ont ensuite porté à jouer les tours au lycée Jean Monnet pour rencontrer Isabelle Fernandez, proviseur, et Cécile Audebert, infirmière scolaire.
Isabelle Fernandez, proviseur du lycée Jean Monnet à jouer les tours.
Alors la rentrée vient d'avoir lieu. Est-ce que vous voulez expliquer, madame, de comment s'est déroulée cette rentrée dans votre établissement ?
Alors, bon, déjà pré-rentrée avec les enseignants lundi, avec ils avaient reçu, comme les élèves et les parents d'élèves, le protocole qui nous avait été envoyé et sa déclinaison au sein de l'établissement, puisque l'objectif c'était d'accueillir tout le monde, donc on ne pouvait pas toujours mettre en place les distances. Donc, le masque obligatoire en permanence, et puis les gestes barrières, le nettoyage des mains. Et notamment l'installation à un certain nombre de points, notamment à l'entrée de l'établissement, aux diverses entrées d'ailleurs de l'établissement, et dans chaque salle, du gel hydroalcoolique, de façon à ce que les élèves, dès qu'ils rentrent dans une salle, puissent se désinfecter les mains. Et voilà comment ça s'est passé pour les enseignants. Donc le jour de la pré-rentrée, nous n'avons pas eu la traditionnelle réunion où on accueille une centaine ou 150 personnes. J'ai fait trois réunions de façon à pas avoir trop de monde. J'ai fait dans le restaurant scolaire qui est beaucoup plus aéré. On a davantage pu mettre de distance, mais tout le monde avait le masque en permanence. Souvent le midi, nous déjeunions ensemble. Là, pas de déjeuner collectif, donc chacun est reparti sur son côté, de son côté. Quant à l'accueil des élèves. Les élèves ont été accueillis mardi matin pour les élèves de seconde, toute la journée, où les professeurs principaux les ont pris en charge et leur ont fait les traditionnels, ont vérifié un certain nombre de choses au niveau administratif et après leur ont fait visiter l'établissement. Et pour les élèves de première et terminale, c'était le mercredi et le jeudi, nous accueillons donc l'ensemble de l'établissement. Avec, comme je vous le disais, la difficulté de mettre en place les distances, hein, puisque nous accueillons tout le monde, mais masque obligatoire et également, comme je vous disais, le lavage des mains. Et les élèves, à ma grande surprise, sont très respectueux de ces règles. Alors évidemment, quelques petites remarques, parce que le masque est souvent sous le nez ou sous le menton, donc le rappeler, le pourquoi, mais... globalement, ça se passe plutôt bien.
Alors, on a vu dans la première partie de ce reportage que pour une école primaire, c'est la mairie de Tours qui a établi le protocole. Donc, est-ce que vous voulez rappeler comment ça se passe pour un lycée ? D'où vient le protocole ? Vous l'avez évoqué, mais est-ce que vous voulez le préciser ?
Alors, le protocole nous vient du ministère, hein, c'est le rectorat qui nous l'a envoyé. Et après, comme les lycées dépendent des régions,
Donc la région nous a donné certaines indications, notamment pour le fonctionnement de la restauration scolaire, puisqu'ils ont en charge la restauration scolaire. Mais le protocole, nous, c'est le protocole qui a été établi au niveau du ministère et qui nous est transmis via le rectorat.
Est-ce que ça a un impact sur la façon dont vos équipes éducatives, pédagogiques, mettent en place leurs cours, ces contraintes ?
Alors, oui, parce que être masqué, c'est déjà beaucoup plus difficile parce que, bon, il y a beaucoup de choses qui passent par le visage, la façon dont l'élève sourit ou pas, etc. Donc, c'est difficile. C'est des contraintes qu'ils ont essayé de mettre en œuvre, qu'ils mettent en œuvre. C'est pas du tout évident pour les professeurs de langue. Hein, parce que être masqué quand il faut parfois montrer la prononciation, ça c'est difficile. Et puis le masque toute la journée, ça peut parfois être long, et notamment quand le temps est au beau, et comme vendredi où il faisait très chaud, où c'était difficile parce que d'avoir le masque, eh bien, on a tendance à peu s'hydrater et c'est compliqué, mais on n'a pas le choix. Donc, c'est le masque en permanence.
Et alors, une question un peu naïve, mais comment se passent les cours de sport ?
Alors, les cours de... Pour l'instant, ils n'avaient pas véritablement commencé, puisque nous n'avions pas accès, en tout cas sur la ville de Joué-Tours, nous n'avions pas accès au gymnase avant la fin, enfin, la semaine dernière, parce qu'il y avait un certain nombre de choses à faire. Nous avons eu le protocole vendredi. J'ai fait une réunion avec les équipes. C'est un petit peu ce qu'on avait vu déjà par rapport au protocole que les inspecteurs leur avaient donné. Donc, les élèves arrivent au gymnase ou dans d'autres lieux masqués. Au niveau des vestiaires, ils font un passage, hein, c'est-à-dire que ils se déshabillent. Hein, ils ont essayé effectivement d'aérer, de mettre de la distance, mais en revanche, les affaires ne restent pas dans les vestiaires. C'est-à-dire que les élèves doivent amener sur les lieux où ils exercent leur activité physique leurs vêtements. Enfin, et puis. Selon certaines activités, au moment où ils font certaines activités, ils enlèvent leur masque. Ou pas. Le choix qui avait été fait par les équipes du lycée Jean Monnet au mois de, on va dire début juillet, hein, quand ils se sont rencontrés, c'était de mener plutôt des activités à l'extérieur, ou alors de mener des activités telles que par exemple la gymnastique, où ils peuvent mettre de la distance et permettre aux élèves d'enlever leur masque. Mais parfois, ben, par exemple, course d'orientation, ben, les élèves restent masqués.
Voilà. Donc, sport collectif aussi ?
Alors, sport collectif, pour l'instant, à cette première partie, on n'en a pas prévu. Mais pour les sports collectifs, eh bien, il va falloir prévoir. Alors, ils n'ont pas prévu d'être masqués parce que ça va être compliqué également. Mais là, nous, la première partie, ça nous laisse un petit peu de temps, là, jusqu'aux vacances de la Toussaint, nous n'avons pas prévu dans le sport collectif. Donc, on va travailler avec les équipes pour voir. Et puis, on attend un petit peu, au fur et à mesure, les préconisations du corps d'inspection hein, qui nous guide de ce côté-là.
Alors, qu'est-ce qui prédomine chez les enseignants comme chez les élèves ? Après ces mois de confinement, c'est la joie de retourner ici ou alors la crainte
Les deux, si je puis dire. Les deux, chez certains, la crainte, parce que la crainte par rapport à la maladie aussi, hein, c'est surtout comme ça que ça se précise, mais également la joie, évidemment, de se retrouver. Le métier d'enseignant, c'est aussi un métier de communication, un métier de contact, donc de voir les élèves, il y a pas mal de choses hein, qui passent dans le cadre de la relation élève-enseignant. Donc, ils étaient contents de se retrouver. Et puis, pour les élèves, hein, pour ceux que j'ai vus, j'ai pas vu tout le monde, mais je suis passée, par exemple, dans toutes les classes de seconde et j'ai vu quelques terminales. Les élèves étaient contents de revenir à l'école parce que, parfois, ça a été difficile, cette période de confinement. Ça a été difficile de suivre des cours. Et la crainte, vous parliez de la crainte, il y a cette crainte aussi de ne peut-être pas avoir acquis toutes les connaissances et les compétences pour pouvoir continuer. Et ça, c'est certains élèves, ils nous le disent. Mais on va les accompagner.
Et justement, comment vous allez faire face à cette... ce post-Covid, du coup que...
Alors, les enseignants vont un petit peu faire un point avec les élèves, hein, et puis en fonction des besoins qu'il pourrait y avoir, nous avons reçu un certain nombre d'heures jusqu'aux vacances de la Toussaint pour accompagner les élèves qui en auraient besoin.
Un certain nombre d'heures, ça veut dire peut-être des enseignants supplémentaires ?
Non, là, ça va être une demande des enseignants supplémentaires, ça va être plus difficile. Ça va être les enseignants de l'établissement. Alors après, c'est à définir avec eux. Hein. J'ai reçu, moi, l'enveloppe en fin de semaine dernière. Donc, elle avait été annoncée. Je l'ai annoncée aux enseignants lors du conseil pédagogique. Maintenant, reste à déterminer avec eux, en fonction des diagnostics qu'ils feront auprès des élèves, si ces heures, on prend par exemple les élèves d'un niveau et puis un enseignant les prend, ou c'est chaque enseignant, on verra en fonction de l'enveloppe, puisque c'est l'enveloppe qui nous a été attribuée, ce que nous pouvons faire, et puis regarder aussi qui en a besoin. Voilà.
Alors vous parlez justement de cette enveloppe, mais j'imagine que la mise en place de protocoles Covid, ça a un coût aussi. Alors qui s'occupe de payer tout ça ?
Alors tout ce qui est protocole, on va dire tout ce qui est masque. Alors pour les enseignants, nous avons reçu, pour les personnels éducation nationale, on va dire, nous avons reçu des masques de l'État. Puisque l'État a fourni des masques aux enseignants, on a donné. Pour tout ce qui est personnel région, c'est-à-dire personnel de service, la région a doté ses personnels de masques. En revanche, eh bien, tout ce que vous avez pu voir en rentrant au niveau du lycée, le gel, eh bien, ça c'est l'établissement, c'est sur son budget. Sur son budget d'établissement. Donc, effectivement, ça fait des coûts supplémentaires que le budget d'établissement supporte pour l'instant.
Et alors, vous pouvez demander quelque chose à la région pour ça
ou... la région, c'est elle qui nous dote en budget de fonctionnement. Donc, voilà, elle nous donne. Alors, après, nous avons reçu aussi du gel hydroalcoolique. Au départ, nous avons été testés, mais comme je vous le disais, hein, on en met aux entrées. Donc vous voyez, quand les élèves rentrent, sortent, hein, ça fait pas mal de choses. Nous en mettons également dans chaque salle. Alors, nous disons bien aux élèves qu'il y a aussi des points d'eau, qu'il y a du savon, mais c'est des lieux qui ne sont pas non plus immenses, donc c'est difficile. Par exemple, en revanche, au moment de la restauration scolaire, là, on leur demande de se laver les mains. On vérifie qu'ils passent bien par ce lieu de lavage juste avant et qu'ils se lavent les mains.
Qu'est-ce qui s'occupe de faire, enfin, pas la police, mais de vérifier qu'il y a ce lavage des mains ?
C'est les AED, hein, les assistants d'éducation, et puis nous-mêmes, conseillères principales d'éducation, personnel de direction, personnel d'intendance. On vérifie, enfin, on ne peut pas être derrière chaque élève, mais on essaie de leur expliquer pourquoi ils doivent mettre en place ces gestes-là, que c'est important, et que s'ils ne veulent pas revivre des moments tels qu'ils ont vécu à partir du mois de mars, eh bien, il est essentiel de respecter ces gestes.
Et enfin, votre établissement a de nombreux partenariats avec des établissements étrangers, enfin, à l'étranger. Alors, comment ça va se passer ?
Alors, cette année, il n'y aura pas d'échange, pas de voyage. C'est vrai qu'on avait l'habitude au lycée Jean Monnet de recevoir beaucoup d'élèves venant de l'étranger. Cette année, nous ne les recevrons pas, puisque c'est un petit peu aussi les consignes que nous avons reçues de notre ministère. Pas de voyage, éviter le maximum de voyage. Donc, de part et d'autre, alors il y aura sans doute d'autres formules hein, qui seront trouvées, d'échanges quand même avec nos partenaires de façon virtuelle. Alors tout reste à réinventer. Hein. La région a mis en place différents protocoles puisque la région nous accompagne également pas mal sur tous ces projets éducatifs, notamment à mobilité européenne ou internationale. Effectivement, cette année, ces projets ne seront pas mis en œuvre. Mais en revanche, les fonds que la région consacre habituellement à ces projets, eh bien, elle les a transformés en appels d'offres par rapport, justement, comme je vous disais, à des échanges de façon virtuelle. Voilà. Donc, c'est des appels à projets qui sont lancés aux enseignants qui peuvent s'en saisir ou pas. C'est vrai que c'est effectivement extrêmement difficile à l'heure actuelle de prévoir des échanges parce que ce peut-être qu'on n'avait peut-être pas perçu jusqu'à présent, mais organiser une sortie, organiser un voyage, un échange, c'est un risque pour un établissement, c'est un risque en matière financière. Mmh. On a pu voir, moi, l'année dernière, j'ai eu... J'avais trois voyages de prévus, hein, notamment un vers la Chine, puisqu'on a l'option chinois ici, un en Allemagne et un en Espagne, en Espagne. Donc il a fallu les annuler. On peut comprendre aussi les difficultés des agences de voyage. Nous avons, comme nous le préconisait notre ministère, remboursé les familles. Mais nous, avec les agences de voyage, parce que souvent on passe par des prestataires pour que ce soit plus simple, eh bien les situations ne sont pas toujours réglées puisque on nous a prévu au départ des avoirs pour des voyages que nous n'allons pas effectuer puisque les projets sont basés sur des c'est éducatif, donc c'est avec des classes spécifiques et ça dure une année. Les élèves après partent vers d'autres classes et on ne peut pas reporter un projet éducatif d'une année sur l'autre, sachant quand ce sont des projets avec des classes. Hein, les classes sont en fait, voilà. Donc désormais, on est prudent parce que c'est un risque financier pour l'établissement.
Et alors, vous évoquiez aussi ces nouveautés numériques. Ça veut dire que le Covid, selon ça veut dire que ça a aussi initié des nouvelles pratiques pédagogiques dans votre établissement ?
Ah ben oui, déjà pendant toute la période de confinement, il a fallu effectivement travailler en urgence, hein, mais prendre de nouvelles habitudes avec les élèves. Alors nous, on a une application avec laquelle nous travaillons déjà au sein d'établissements, puis que beaucoup d'établissements ont choisi également. Mais là, on l'a utilisé vraiment au maximum, hein, puisque les échanges numériques se faisaient via cette application. Et puis, eh bien, nous avons également recherché, le ministère nous avait également fourni des applications, notamment des classes virtuelles, que les uns et les autres, on a appris également à utiliser. Et c'est d'autant plus vrai. Et on a vu également que on avait des familles. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait en début d'année pour être prêt si jamais, on ne sait jamais, recenser les matériels que les élèves n'avaient ou avaient et recenser également les connexions. Parce que ça, c'était important, à la fois du côté des élèves, mais également du côté des enseignants, pour que chacun puisse prendre le temps aussi d'acquérir certains matériels ou les accompagner au niveau des élèves, hein, puisque la région, justement, accompagne les élèves qui auraient besoin de matériel informatique, notamment, mais déjà depuis l'année dernière, elle a mis en place une possibilité pour les élèves d'acquérir du matériel informatique à des prix quand même très fort intéressants, hein. Donc ça, elle l'a renouvelé, et puis elle a également un stock d'ordinateurs pour accompagner les élèves. L'année dernière, là, pendant la période de confinement, j'ai prêté moi au sein de l'établissement à peu près une vingtaine d'appareils, hein, concernant, voilà.
Est-ce que vous voulez me montrer quelques dispositifs dans l'établissement, des choses que vous avez pu mettre en place ?
Oui, je vais vous montrer.
Vous voyez déjà ce qu'on a mis en place. Hein, déjà, vous voyez, ici, pour la salle de reprographie, hein, on a quand même mis des espaces hein, de distance, des lieux de circulation hein, pour éviter. À l'entrée, comme vous pouvez le voir, on a mis des colonnes. Des colonnes, on a du gel hydroalcoolique, alors des colonnes qu'on a achetées, mais parfois, comme on n'en avait pas assez, parce qu'on n'a pas pu avoir tout ce qu'on voulait, les agents d'établissement en ont confectionné, comme vous pouvez le voir, à l'entrée du lycée. Hein, c'est quelque chose qui a été bricolé, mais on a fait au mieux. Voilà ce que je peux vous montrer.
Et puis, alors, ça change quand même la configuration des lieux. Hein. Déjà, il y a ces marquages au sol, ça met des couleurs supplémentaires... Comment ça modifie peut-être la circulation de vos personnels ? Est-ce que c'était peut-être pas évident au début de suivre le parcours fléché ?
Au mois de juin, nous avons quand même commencé à mettre une identification. Elle était même beaucoup plus importante que ce que vous avez là. Donc bah, les gens ont commencé à appréhender et à mettre en place ces gestes-là. Voilà, donc on continue, mais c'est beaucoup plus léger que ce que nous avions au mois de juin, puisqu'au mois de juin, c'était ici, c'était également un sens de circulation dans tout l'ensemble des locaux, ce qu'on ne peut pas mettre, puisque nous avons 1200 élèves, 130 à 150 personnels en plus. Donc, c'est difficile de pouvoir le mettre. La consigne qui est donnée aux élèves et au personnel, c'est de sortir... vers la porte qui est la plus proche de leur sortie et d'essayer de contourner et de se déplacer par les extérieurs de l'établissement de façon à ce que les élèves soient au plus vers l'extérieur et d'éviter. Nous n'avons pas encore eu de période de pluie, donc là ça va être extrêmement difficile parce que le lycée à un certain nombre d'espaces, mais pas énormément d'espaces extérieurs. Et puis, on sait très bien que quand il pleut, bah, les élèves, comme tout le monde d'ailleurs, hein, va être ça la plus compliquée. D'où l'importance d'avoir le masque.
Et alors, c'est des individus masqués dans les couloirs, des marquages au sol. Est-ce que ça peut être difficile, voire anxiogène, pour des élèves ou des personnels qui seraient malentendants ou porteurs d'un autisme ?
Sans doute. Alors, on en a quelques-uns. C'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps pour l'instant de pouvoir s'en occuper. Là, on était plutôt dans l'urgence de la rentrée. On va avoir un premier travail qu'on va mener sur le suivi des élèves pour voir un petit peu quelles sont les difficultés chez certains élèves. Là, il y a un certain nombre d'informations qui commencent à nous remonter. C'est vrai que pour les malentendants, d'avoir le masque, c'est compliqué. Et pour l'instant, nous n'avons pas d'autre solution que ces masques. Alors peut-être qu'on aura des masques transparents qui vont arriver. Est-ce que j'ai déjà vu qu'il y avait notamment pour les éducateurs qui avaient en charge des élèves malentendants, autistes, qui avaient des masques. Alors peut-être que ça va également arriver pour dans les établissements scolaires, notamment pour ces élèves-là, et puis notamment pour les enseignants de langue. Parce que ça, c'est même en lycée, c'est quand même important pour les élèves parfois de voir comment prononcer ce mot. Et à l'heure actuelle, c'est pas possible.
Voilà, je vous suis, si vous voulez.
Alors, on va aller. Hein, je vais aller. Donc là, on va aller tout droit quand même, merci, puisque nous allons aller directement à l'infirmerie. Donc vous voyez, on a mis partout des petites bornes, et des bornes qui ont parfois été fabriquées. Et dans chaque classe, on a une petite bouteille, enfin, ce qui est également le long du mur. Voilà. Je vous amène à l'infirmerie.
Bonjour, je m'appelle Cécile Audebert et je suis infirmière au lycée Jean Monnet.
Alors, dans le contexte du Covid, est-ce que vous voulez expliquer quel est votre rôle en tant qu'infirmière scolaire ici auprès des élèves et des professionnels ?
Donc, mon rôle va être de répertorier toutes les personnes qui sont concernées de près ou de loin par ce virus. Les familles peuvent appeler pour dire que leur enfant est absent parce que cas contact. Donc nous, on s'occupe de vérifier qu'ils ont bien été chez le médecin, que voir s'ils se font tester, quel est le résultat. Et en cas de contact, de test positif sur un élève qui a été présent dans l'établissement, on appelle la cellule médicale départementale qui va du coup prendre le relais pour mener une enquête et voir si besoin de fermeture ou pas.
Alors, est-ce que, en tant qu'infirmière, vous êtes amenée à former, en fait, à intervenir auprès des élèves ou des équipes pédagogiques pour expliquer comment on met un masque, pourquoi on se lave les mains ?
Alors, j'ai effectivement, à la pré-rentrée, revu avec les professeurs l'utilité de mettre un masque, comment le mettre, un lavage de mains efficace aussi. Et je pense que je vais retourner dans les classes aussi pour redonner les bons conseils, en tout cas, pour parce qu'on a, on entend bien que les masques sont enlevés pendant les cours. Donc voilà, on va reprendre les choses au fur et à mesure dans les classes aussi.
Alors je vois sur votre bureau le protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires. Donc, ça c'est émis par le ministère de l'éducation. Donc comment vous contribuez à sa bonne mise en œuvre au sein de l'établissement ?
Ah bah, tout simplement en respectant ce qui est écrit. Et on n'est jamais seul, en fait. On a une infirmière conseillère technique qui travaille à la DSDEN et à qui on téléphone régulièrement pour lui demander des conseils. Est-ce qu'il y a besoin d'appeler la cellule médicale pour ce genre de cas ? En fait, on n'est jamais tout seul. Donc, et le protocole nous permet de suivre étape par étape ce qu'il faut qu'on fasse.
Et alors, si en tant qu'infirmière ici, vous avez une suspicion de Covid, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous devez faire ?
Suspicion de Covid, on appelle la famille pour qu'ils viennent chercher leur enfant, en leur conseillant d'aller voir le médecin traitant, qui lui décidera si oui ou non utilité de passer le test ou non. La famille nous tiendra au courant et on avisera. Mais sans résultat de test, on va pas lancer des infos à droite à gauche parce que ça affole tout le monde. Donc c'est vraiment le médecin traitant qui va attendre, va nous dire.
Et alors si c'est confirmé,
un courrier est envoyé, une information est envoyée aux familles en disant que il y a un cas positif dans la classe du coup de leur enfant et qu'ils doivent se rapprocher en cas de symptômes, se rapprocher de leur médecin traitant pour évaluer et faire le dépistage.
Mais ça serait très ennuyeux, alors, si ça arrivait, parce que non seulement la classe, mais si l'enfant, enfin le jeune, mange à la cantine.
Exactement. Donc ça peut prendre très vite une proportion assez énorme. On va croiser les doigts pour que ça n'arrive pas. On verra.
Et alors, il y a aussi sûrement dans votre établissement des jeunes qui ont des problématiques alimentaires particulières. Donc comment c'est géré actuellement tout ces...
Au niveau de la restauration, donc c'est la région qui gère et ils prennent pour l'instant... ils gardent le principe de si allergie ou intolérance, de leur proposer un menu particulier. Mais il faut que ce soit encadré dans un projet d'accompagnement individualisé, un PAI. Mais ces élèves-là peuvent quand même venir manger. Mais nous, il y aura moins de choix au niveau du menu, comme il y avait avant. Là, c'est un choix très restreint. Donc c'est pour ça qu'on leur propose de quand même pouvoir manger ici avec un menu adapté à leur pathologie ou leur intolérance. Donc ça reste comme ça pour le moment. Est-ce qu'ils arriveront à le maintenir sur une longue durée ? Je ne sais pas. Ça, c'est la région qui... Vu que c'est eux qui gèrent la cantine, c'est eux qui prennent cette décision. Sinon, ce sera des élèves qui devront manger à l'extérieur. Ça va être compliqué, mais ils devront... Alors, on sent quand même que même un élève tout à fait sans pathologie, on sent bien que c'est une atmosphère un peu stressante quand même. Mais globalement, je trouve qu'ils respectent bien et ça se passe plutôt bien. Après, c'est les élèves qui ont de l'asthme, bon, ça amplifie un peu les symptômes, faut les rassurer, leur faire prendre un petit peu l'air et ça va.
Et ça, vous le voyez, en fait, depuis mars dernier, des élèves qui sont anxieux dans ce contexte, qui sont vraiment stressés par ce contexte précisément ?
Avant le confinement, c'est sûr que les élèves venaient très vite à l'infirmerie dès le moindre symptôme en se disant « mais est-ce que c'est ça ?» Après, il y a eu le confinement et au mois de juin, on a eu vraiment très très peu d'élèves qui sont revenus en cours vu que c'était sur la base du volontariat. Et là, bon, on sent que ils sont quand même inquiets. Et oui, dès qu'il y a un symptôme, ils demandent si c'est le Covid ou pas. Mais on essaye de les rassurer comme on peut et on les renvoie vite vers le médecin traitant, qui, lui, va évaluer la nécessité du test ou non.
On peut supposer aussi que certains élèves ont des problématiques personnelles ou familiales difficiles. Mmh. Et donc, avec le temps de confinement, peut-être que l'infirmière scolaire, c'était aussi une personne à qui il pouvait parler.
Tout à fait.
Ça veut dire qu'il y a eu une cassure, en fait, dans ce lien-là. Donc, qu'est-ce qu'il advient de ces jeunes gens ?
Alors, les élèves que je suivais l'année dernière pour ce genre de problématiques, pendant le confinement, on a quand même gardé un lien, que ce soit téléphonique ou par messagerie. Ce qui a permis quand même de... Je pense que ça leur a aidé à passer ce confinement plutôt bien, finalement. Il y a deux élèves à qui ça a été un peu plus compliqué et ils sont partis de... Enfin, voilà, on a organisé la séparation familiale pour que ça se passe au mieux. Mais globalement, le fait que les CPE, les profs principaux, moi, on reste en contact avec eux et il y a toujours un soutien, ça a permis quand même d'éviter trop de situations très, très compliquées.
Donc là, on voit bien qu'il y a un rôle qui n'est pas toujours connu aussi des équipes enseignantes et paramédicales, c'est ce suivi hors des cours.
Oui. Alors, qui s'est surtout vu pendant le confinement. Après, moi, le week-end, quand je rentre chez moi, voilà. Ouais. mais effectivement, il a fallu à distance continuer à assurer nos fonctions. Ce qui est forcément plus difficile quand on parle de relations humaines, c'est forcément plus compliqué à distance. Mais je trouve que globalement, on a quand même réussi à maintenir les choses et garder un lien avec les élèves fragiles, avec des problèmes particuliers, que ce soit familial ou de santé.
Voilà, c'était un reportage au lycée Jean Monnet, Isabelle Fernandez, proviseur, Cécile Audebert, infirmière scolaire. Alors, on voit dans ces deux reportages que les protocoles appliqués sont moins pénibles qu'en juin, qu'ils ont tout de même un coût financier pour les établissements et qu'il y a une joie de revenir en cours. Après des mois de confinement, aussi bien pour les équipes enseignantes que pour les jeunes, un confinement qui était parfois bien pénible. Cette période de rentrée, c'est aussi l'instauration de nouveaux outils pédagogiques, de nouvelles méthodes éducatives héritées parfois du confinement. Et voilà à quoi ressemble cette rentrée. S'il y a une bonne volonté du côté des équipes administratives et des enseignants, des parents et aussi des élèves, il est encore difficile d'évaluer l'impact moral du Covid-19 sur les plus jeunes générations. Et il serait intéressant de poursuivre ces reportages sur le retour en cours ou à l'école. Alors, si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous écrire à lameridienne@radiocampustour.com. Cette émission Parasol et Bordeloire touche presque à sa fin. À midi, vous entendrez Arnaud Rivière, directeur de l'IAE. À 13h, après le flash info RFI, vous entendrez Crossover, la rediffusion de l'émission de dimanche. Crossover, c'est nos DJ tropicaux. Et ce soir, à 21h, c'est Jazz Story qui fait sa rentrée. Je vous souhaite à tous une excellente journée à l'écoute de nos non moins excellents programmes.